Bonjour à tous et merci André, merci de nous accueillir avec mon épouse et ma famille.
D'accord, oui, merci.
Donc oui, je demandais au Seigneur ce que je pouvais vous apporter, partager avec vous. Déjà, je veux vous donner les salutations de l'église de Ruel-Malmaison, qui est une petite famille d'un peu plus d'une centaine de personnes. Nous avons le privilège d'être couple pastoral dans cette église depuis près de 14 ans. Et je dirais que c'est notre famille. Et je pense que vous avez déjà eu ce sentiment quand vous êtes allé visiter d'autres églises. C'est que vous pouvez ne connaître personne et vous vous sentez déjà en famille. Je ne sais pas combien de fois les personnes qui témoignent après plusieurs années d'être là se disent en fait on est resté parce que au moment où on allait partir, quelqu'un est venu courir après nous pour nous dire mais reste, qui es-tu, d'où viens-tu, faire connaissance. Et beaucoup ont été guéris parce qu'il y a de l'amour dans l'église de Christ, et que s'il n'y a pas d'amour, c'est pas l'église de Christ. Et le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui justement, c'est pas sans amour. Pas sans amour, c'est un sujet, c'est le sujet de l'amour, dans la parole, la manière dont le Seigneur nous appelle à nous aimer. Et c'est un miracle. C'est pas moins qu'un miracle d'arriver à nous aimer de la manière dont le Seigneur le fait. Et pour ce faire, je vais vous inviter à relire un passage que vous connaissez peut-être par cœur, mais on va le découvrir sur un nouvel angle. C'est Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Vous avez l'habitude de l'entendre, ce passage, sûrement lors des mariages. Quand on parle de l'amour, on se dit mais c'est un grand classique. Et j'ai revisité un petit peu ce passage, mais d'une manière un peu plus concrète, pour regarder ce que chaque verset pouvait signifier au quotidien. Et en lisant ça de cette manière, je me suis dit mais c'est pas possible. Humainement, on va pas y arriver. Et c'est là que le Seigneur intervient. Et sans lui, c'est... faut oublier. Sans le Seigneur, faut oublier. Parce que cet amour-là, il peut pas venir que de nous. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelait Pascal. Et je cite souvent pour cette citation, il dit « Nous avons tous à l'intérieur de nous un vide, un trou en forme de Dieu. » Et je dirais que ce vide à l'intérieur de nous, il se remplit avec plein de choses si le Seigneur n'est pas là. Il se remplit avec des abus, il se remplit avec des excès de quoi ? De travail, peut-être de drogue, de perte de temps, de sexualité, d'excès en tout genre, de recherche, d'être reconnu, de reconnaissance sociale. Ce qui entraîne énormément de problèmes. Et en fait, ce vide-là, on se rend compte que, même en tant que chrétien, des fois, on essaie de le remplir avec d'autres choses que ce que le Seigneur peut donner. Donc, l'exercice qu'on va faire ce matin, si vous voulez bien, c'est de relire 1 Corinthiens 13 et de se poser à chaque verset un peu la question de comment est-ce que le Seigneur envisage les choses. Parce que on le lit vite, ce passage, on a l'habitude de le lire. Je dirais, avant de rentrer dans 1 Corinthiens 13, que l'amour, c'est d'abord une relation. Ça va réellement dans les deux sens. Et l'amour est galvaudé, tellement galvaudé aujourd'hui, quand on rentre dans une relation, on s'attend à recevoir quelque chose. Très souvent, même, c'est ce qu'on se dit. On se dit, est-ce qu'il va savoir m'aimer ? Est-ce qu'elle va savoir m'aimer ? On se dit très peu souvent, j'ai tellement à donner, je veux tellement donner. Quand on rentre dans une relation, en général, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation entre nous ici, dans l'église, souvent on regarde ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et souvent on met ça dans une balance et on se dit, franchement, après tout ce que j'ai fait, j'ai pas l'impression d'être apprécié, j'ai pas l'impression d'être reconnu, j'ai pas l'impression d'être aimé, c'est ça le pire. C'est pas tellement le fait d'être reconnu ou apprécié. Aimer, simplement pour qui on est. Quand on s'assoit sur une de ces chaises ici, on ne peut pas s'attendre à autre chose devant le Seigneur de se dire il m'accepte tel que je suis. Mais pourtant, on a cette habitude en tant qu'humain de se dire je dois tout mériter. Et si je dois aimer quelqu'un, il doit mériter que je l'aime. Je dois gagner le droit d'être aimé, gagner le droit d'être écouté. Et des fois même d'ailleurs, on se trompe, on rentre dans une relation en pensant que ben, ça y est, parce qu'on est chrétien, ça va se jouer tout seul. Et puis non, en fait, il faut travailler à ça. On gagne, on essaie de gagner du terrain, de gagner de la confiance, gagner pour pouvoir faire en sorte que cette relation fonctionne. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Et on se dit, mais rien n'est gratuit. Et pourtant, quand on se tourne vers la croix, est-ce que le Seigneur vous a demandé votre avis avant de donner sa vie pour vous? Est-ce qu'il vous a demandé, tu veux que je meure pour toi ou comment? Non. Non. Il a dit, je t'ai tout donné. Ouais. Je t'ai tout donné. En effet, si je parlais la langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne suis plus rien qu'une trompette qui claironne, une cymbale bruyante. Vous savez pourquoi il parle de cymbale bruyante, là, comme ça? Parce qu'à l'époque, il y avait un culte païen, à un dieu assez particulier. Et cette cymbale, en fait, c'était des marmites d'airain. Les archéologues ont trouvé donc à près de Corinthe, à Dodone, des marmites d'airain qui étaient déposées devant certains temples païens. Alors, ces marmites, quand elles se touchaient, vous pouvez frapper la première marmite, vous frappez la première et en fait, les ondes se répandent à toutes les autres marmites. C'est fou. Ça fait un son un petit peu bizarre, ça fait un peu planer, quoi. On se dit, il y a quelque chose de magique dans ce truc-là, c'est extraordinaire, etc. Et en fait, les sons se transmettaient de l'une à l'autre et ça faisait comme une sorte de murmure. Vous imaginez un petit peu, vous entendez les consonances un petit peu au Népal, les trucs comme ça, là. Un petit peu bizarre. Et ils se disaient, c'est peut-être comme un langage divin. Et ils appelaient ça l'airain de Dodone. Et en Grèce, un airain de Dodone, c'était similaire à un bavardage. Ça voulait dire, bah, vous bavardez, vous êtes comme des airains de Dodone. Ça se répand, ça brrr, comme ça. En fait, ça ne veut rien dire, c'est vide. C'est juste un mécanisme physique. Il n'y a rien dedans. Rien. Donc je relis. Je peux parler la langue des hommes, même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain de Dodone. C'est comme un murmure, ça n'a aucun sens. On va revenir là-dessus. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? C'est quand je vous ai dit qu'on doit tout mériter de quelqu'un, même après on vient de fêter nos 19 ans de mariage avec Linda, eh bien on veut entretenir cet amour et donc on veut mériter quelque part que l'autre nous aime, donc on se fait des attentions constamment. Et vous savez, dans une relation, très souvent, on a l'impression de compter des points. C'est triste, mais c'est vrai. Parce que quand il y a un déficit dans la relation, on a l'impression qu'il faut se rattraper. C'est plus gentil que d'habitude, plus d'attention que d'habitude. Il faut être plus attentionné, plus à l'écoute, plus sensible. Des fois, il faut même marcher sur des œufs. Vous connaissez l'expression « marcher sur des œufs » hein ? On fait attention à tout ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on y va doucement, parce que l'autre peut être en douleur. Ou ça peut être nous qui sommes en douleur. Et donc, que ce soit dans l'église, dans le travail, dans le couple, avec les enfants, on fonctionne tous pareil. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Superwoman. Vous comprenez? Et là, c'est difficile quand ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionne très souvent comme ça. On marche sur des œufs. On fait attention à ce qu'on dit. On essaie de ne pas blesser. Et malgré ça, le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire, on fait le mal qu'on ne veut pas faire. On essaie d'être attentionné, on essaie de faire attention et même de donner des fois ce qu'on a de meilleur. Et le pire, c'est que quand on a l'impression de donner ce qu'il y a de meilleur et que la personne dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'avais pas besoin de ça. Je m'attendais à autre chose. Et là, vous vous sentez encore plus écrasé. Ça fonctionne très très souvent comme ça, trop souvent comme ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes en déficit. On a un déficit par défaut. Ce déficit, c'est un déficit d'amour. Comprenez? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On sait intellectuellement qu'on a reçu un amour qui est sans égal, mais on n'arrive pas à le consommer, à le prendre et à le refléter. J'ai remarqué ici qu'il y avait des carrelages particuliers. Dans cet endroit, il y a des carrelages qui reflètent à moitié la lumière, qui l'absorbent en partie. Puis il y a quelques carrelages exceptionnels qui sont disposés peut-être de manière très symétrique. Apparemment, oui, je n'ai pas compté, mais mon côté autiste me dit que oui. Et ces carrelages-là, ils sont polis, ils reflètent totalement la lumière. Ça veut dire que s'il y a la lumière qui rentre, il y aura quelques carrés qui vont éclairer le plafond, mais le reste va tout absorber. Quel genre de carrelage êtes-vous? Est-ce que vous êtes celui qui absorbe, ou qui reflète ce qu'il reçoit du Seigneur? Parce que je dirais que la grande majorité d'entre nous, on absorbe, la plupart du temps, constamment. Et quand on se met à rencontrer quelqu'un qui reflète un amour, comme on peut refléter, comme un miroir pourrait refléter la lumière du soleil et se refléter parfaitement de la même manière qu'il a été découpé, ce miroir, il peut se refléter sur le plafond comme le soleil éclaire. C'est très très rare. Et ça demande un miracle. Ça demande la présence du Saint-Esprit. Je donne un exemple concret. Une des fois où j'étais terrassé par l'amour du Seigneur, c'était en sortie d'un week-end où on avait loué le Seigneur tout le week-end. On avait fait de la louange, on avait reçu un couple qui est venu prier pour nous, qui était très très prophétique. Et je crois que cet esprit de prophétie était imprégné sur nous. Et je ne m'en suis pas rendu compte lundi matin, quand on est allé faire les courses avec Glenda, pas très très loin à Melun, là-bas au petit casino. C'est lundi matin, on sort d'un beau week-end, j'ai encore quelques chants de louange dans la tête, et alors que je mets le pied dans ce magasin, mes yeux se braquent sur un homme qui était là. Il avait des tatouages un petit peu partout autour du cou, je voyais qu'il travaillait dans le magasin, et tout d'un coup, j'ai un sentiment de tristesse immense qui me remplit le cœur. Immense. On allait souvent dans ce magasin, mais j'aurais jamais remarqué personne. Mais après avoir autant reçu ce week-end, je pense qu'il s'est passé quelque chose. En rentrant dans ce magasin, je vois cet homme et je me remplis de tristesse et d'amour. Mais un amour particulier. Un amour qui fait de la peine, vous voyez? Un amour qui a envie de donner et qui se dit, mais si je ne vais pas là-bas, je serai malheureux. Et alors que je regarde cet homme, ça m'était jamais arrivé ce genre de sentiment. Je me suis dit, tu es fou, il y a un problème. Je suis devenu pâle. Glenda me demande, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bizarre. Et je dis, mais je comprends pas ce qui se passe. Quand je regarde cet homme là-bas, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe et je suis rempli de tristesse pour lui. Et là, j'ai le réflexe de dire, mais Seigneur, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est un lundi matin, hein? C'est pas le jour les plus faciles, les lundis matins, on est d'accord? Et là, le Seigneur me parle, pas de manière audible, mais il est en train de télécharger dans mon cœur plein d'informations, très très lourdes à porter. Alors, je peux vous en parler parce que je n'ai jamais recroisé cette personne, je ne sais pas si je la recroiserai à nouveau. Il me dit, cette personne, elle est homosexuelle. Et cette personne, elle a été abusée quand elle était petite par un des membres de sa famille. Et depuis, eh ben, elle n'arrête pas d'être abusée par les gens qui sont autour d'elle. Elle est aujourd'hui homosexuelle, mais beaucoup de gens l'abusent, utilisent cette personne comme un chiffon. Et pourtant, je l'aime, elle est à moi. Je l'ai appelée par mon nom. Alors, de toutes les personnes, j'aurais pu me tourner vers n'importe qui, le Seigneur choisit cette personne-là. Et comment vous faites? Et alors, Glana me dit, le Seigneur m'a donné la femme parfaite, pour moi, en tout cas. Elle me dit, t'inquiète pas, si ça vient vraiment du Seigneur, cette personne, elle va venir vers toi de toute manière. T'inquiète pas. Je me suis dit, d'accord, il est là-bas, mais moi, je vais là-bas. Et donc, je m'en vais de l'autre côté du magasin. Et j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure avec toutes ces informations. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette personne arrive vers moi. Elle est là, elle est en train de travailler dans les rayons parce qu'elle travaille. Et je me suis dit, très bien, il est là, moi je vais là-bas. Et donc je vais à l'opposé du rayon, à l'opposé du magasin. Bon, il n'est pas très grand, mais quand même. Et je me suis dit, ben, si ma femme a raison, elle a raison, il viendra. Et il est là. Il est là, à côté de moi. Et son collègue, il est là à côté de moi, il ne fait rien. D'ailleurs, c'est son collègue qui va ranger les trucs. Glana parle avec son collègue parce qu'elle cherchait quelque chose pour les cheveux. Et lui, il est là, il bouge pas. Et moi, je suis là et je bouge pas. Et j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut pas rester comme ça. Je vais pas finir la journée avec un cœur qui reste dans la poitrine si je dis rien. Et là, je me lance. Je me dis, c'est parti, on y va, on va voir. Et je lui dis, excusez-moi, monsieur, je ne vous connais pas. Je voyais sur son tag, il avait marqué Cyril. Il s'appelait comme moi, exactement pareil. Fou quand même, la coïncidence. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Et là, je lui dis, je vous prie de m'excuser. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un message du Seigneur pour vous. Alors, je bégaye un peu, hein, je suis un peu... Et je lui dis, écoutez, voilà, par contre, j'avais vu un prophète faire ça, j'ai pris exemple. Je dis, par contre, si j'ai tort, à un seul moment de mes phrases, vous m'arrêtez de suite. Vous ne me permettez pas de continuer. Si je dis quelque chose qui est faux, arrêtez-moi. Et là, je lui ai dit tout. Je lui ai dit tout ce que je vous ai dit, là, dans l'ordre. Et il ne dit rien, il reste comme ça, il a les yeux qui commencent à rougir. Et là, il me dit oui. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, et j'avais mon cœur qui s'est brisé à ce moment-là, quand j'étais petit, je voulais devenir prêtre. Je voulais servir Dieu. Et c'est vrai ce que vous avez dit. Mais il me dit, aujourd'hui, de toute manière, j'ai une vie totalement épanouie. Je suis très heureux dans ma sexualité. Je suis libre, évidemment. Et je lui dis, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que ben, je peux parler avec vous, si vous voulez qu'on s'appelle, on discute. Je ne savais pas, j'étais comme un imbécile, en fait. Vraiment comme un imbécile. Je ne savais pas du tout comment clôturer la chose, comment faire. Et c'est ma femme à nouveau qui vient me dire, il me dit, tu as bien dit que le Seigneur l'aime. Et j'ai dit, ben, j'ai dit plein de choses, mais je ne pense pas lui avoir dit ça. Et là, le Seigneur me saisit, elle me dit, c'est la seule chose qu'il doit savoir. Alors, il avait bien conscience, cet homme-là, que si le Seigneur venait lui parler dans un rayon de son supermarché, comme ça, un lundi matin, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il l'appelle. Et je ne le retrouve pas dans le magasin d'ailleurs, et j'ai le cœur qui bat toujours et les bras chargés de sacs. Et alors qu'on sort dans le parking, il était en train de fumer une cigarette, en train de regarder dans le vide. Alors j'imaginais peut-être qu'il devait réfléchir à ce qui venait de se passer. J'ai dit qu'une seule chose, j'ai dit, vous savez, si je suis venu vous voir, ça ne vient pas du tout de moi. Ma femme dit, surtout insiste bien que ça ne vient pas de toi, que c'est le Seigneur qui parle. J'ai dit, écoutez, je voulais juste vous dire que le Seigneur vous aime et vous cherche. Il est toujours là. Vous lui appartenez. Il vous aime. Ce matin-là, en particulier, je pense... Voilà, le soleil est parti. Mais ce matin-là, je pense que c'était un reflet, en fait. J'étais comme un miroir qui ne reflète pas grand-chose, mis à part le moment où le Seigneur brille en vérité par son amour pour annoncer un message en particulier. C'est un message d'amour. Et cette personne, je ne l'ai jamais revue. Mais j'imagine que je ne suis pas seul, parce que si le Seigneur cherche, vous cherche, et cherche quelqu'un, il va venir taper à sa porte plusieurs fois dans sa vie. Croyez-le, vous n'êtes pas indispensable, mais vous êtes nécessaire. Comprenez ? Vous n'êtes pas indispensable, mais vous êtes nécessaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir servir le Seigneur librement, Si vous dites non, je ne pense pas qu'il vous en veuille. Mais si vous dites non trop souvent, ben vous allez passer à côté de sa gloire. Mais vraiment passer à côté de sa gloire. Si vous ne mettez pas un pied dans le Jourdain, l'eau ne s'arrêtera pas. Vous comprenez? Vous connaissez cette histoire, hein? Hein, les Lévites ont dû mettre un pied dans le Jourdain pour que l'eau s'arrête afin de pouvoir traverser à sec. Il faut faire un pas de foi des fois, un pas d'amour, un pas qui vous sort de vous-même. C'est donner un amour qui n'est pas personnel, qui n'est pas à vous, mais qui vient des cieux. Un amour qui est tellement pas humain que chaque jour, à chaque heure, vous pouvez dire « Oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. » Vous comprenez? Donc voilà, c'était pour parler de ce reflet. Vous regarderez peut-être ces carrelages différemment, je ne sais pas. Mais il y a des moments où on doit refléter, particulièrement dans des moments particuliers. Parce que le Seigneur a une mission très, 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 très simple au fond. C'est qu'on s'aime les uns les autres comme lui nous a aimés. Et là, c'est un miracle. Alors rentrons dans le vif de Corinthiens 13. En effet, si je parlais la langue des hommes et même celle des anges sans avoir l'amour, je ne serais rien, vous l'avez compris. Eh bien, ça, c'est une question de capacité. Dans cette méritocratie, on doit tout mériter, on doit mériter l'amour, on se dit, eh bien, si je sais parler la langue des anges, et j'ai un parler en langue qui est magnifique, oh, c'est beau. Est-ce qu'on peut interpréter ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose, vraiment? Est-ce que c'est comme un airain de Dodone, ou est-ce que c'est vraiment du Seigneur? Je peux avoir cette capacité extraordinaire de faire des choses impressionnantes. Mais s'il n'y a pas d'amour là-dedans, et on va définir après, il va définir ce que c'est l'amour, vous allez voir, c'est encore plus... Si je n'ai pas l'amour, bah, ça ne sert à rien. Et très souvent, on se dit, mais je peux être aimé aussi si je montre que j'ai des capacités. Est-ce que le Seigneur a attendu que vous lui montriez vos capacités pour l'entendre dire qu'il vous aime? Non, il vous a aimé quand vous étiez au fond du puits. Il ne s'attend pas à ce que vous lui montrez combien vous pouvez faire des flex avant de vous dire « Ah ben, celui-là, il est bien, je vais l'aimer plus que les autres. » Non, ça ne marche pas comme ça, l'amour du Seigneur. Et pour nous, en tant que chrétiens, si ça marche différemment que ça, on est mal. Si on doit attendre que la personne doit faire des choses extraordinaires là dans l'église pour lui montrer plus d'amour qu'aux autres, on ne va pas aimer beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas la voix de notre chanteuse ou Isabella, je ne sais pas. Est-ce qu'on va les aimer plus que les autres? Non. En continuant. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance. Et supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Eh bien là, c'est savoir beaucoup de choses. J'ai une connaissance particulière. Je suis peut-être même érudit dans quelque chose. C'est ce qui a poussé certains disciples de dire « Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Aquilas, moi, je suis pour... je sais pas. » Ils étaient peut-être nombreux. On avait des préférences. Parce qu'il y en a un qui sait plus que l'autre. Vous savez, quand j'ai fait les études de théologie à Vaux-sur-Seine, j'étais fan de certains profs. Mais fan. Vous êtes dans une situation où vous regardez la personne et vous dites « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui ?» Oh là là, il y a ces moments et ces passages là où, puis après tu grandis, puis tu dis mais non, en fait ils sont comme tout le monde. Avec le temps, on s'en rend compte. On peut être fan et puis on se dit oh, qu'est-ce que j'aime cette personne. Mais tu l'aimes pour quoi? Pour qui elle est? Pour ce qu'elle sait faire? Pour ses connaissances? Et nous, comment on cherche à se faire aimer, même dans une relation? Je veux montrer combien je suis indispensable. Je veux montrer combien je sais des choses que d'autres personnes ne savent pas pour pouvoir mériter plus d'amour. Est-ce que je n'ai pas appris ça à l'école en essayant d'avoir des bonnes notes pour être agréé par mes parents, agréé par mes profs? Est-ce que ça fonctionne comme ça toute la vie? Il va falloir mériter puisqu'il faut mériter un salaire. Il faut faire plus d'efforts que les autres. Ce n'est pas fatigant ça, les amis, de vivre tous les jours en essayant de mériter quelque chose aussi important que comme l'air ou l'eau, eh bien c'est l'amour. sans amour, mais on ne peut pas fonctionner. La raison pour laquelle on a tous ces plaies dans ce monde, et la raison pour laquelle il y a des divisions, ce ne serait pas un profond manque d'amour, de compréhension, d'essayer de s'intéresser vraiment à l'autre, pour qui il est, pas pour ce qu'il doit faire ou ce qu'il sait faire. Je vous l'ai dit, c'est un miracle. Et très souvent, on essaie de se vendre comme ça, même dans les relations de couple. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. On essaie de montrer combien on est capable. Ça, c'est très, 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 très pour les gars, d'ailleurs, ça, j'ai remarqué. Je le dis souvent, même lors des mariages, ça met tout le monde tranquille, d'accord. C'est, vous savez, quand on est un homme et qu'on sait construire une étagère, et ça assure, hein. Quand ta femme te demande, tu dis, tu peux régler ça, s'il te plaît, tu peux faire ça. Oui. Et une fois que vous avez fait les choses, hein, tu t'as vu, hein, elle est pas mal l'étagère. Hein. Et, ça, c'est un langage non verbal. Quand on fait comme ça, ça veut dire, je suis fier. Vous remarquerez, hein, quand les gens font ça, c'est, ah, il y a quelque chose qui est une petite fierté. Et, t'as vu, hein. Et alors, si ta femme passe à côté en disant, ah, c'est pas mal. Aïe! Aïe! Attends, mais. Excuse-moi. T'as regardé ce que j'ai fait? T'as vu comme c'est propre? T'as vu, j'ai. T'as vu ce que j'ai fait? On essaie. c'est très les mecs, ça. Vous avez remarqué? Alors, je vous dis juste un conseil, mesdames, quand il fait quelque chose, même s'il fait un tout petit truc, il va pas vous, enfin, il sera frustré si vous dites pas, ah, mais t'as, c'est bien. Ah là là, mais ce clou, tu l'as super bien planté. Waouh, le tableau est. Aïe, il est droit, ça y est. Bravo, vraiment merci, chérie. Vraiment, bisous. Et là, il est content. C'est vrai? Tu rigoles, mais il y a du vécu, je suis sûr. Vous savez, on a besoin de ce mérite-là, on a besoin de ces trucs, parce qu'on a l'impression de devoir se faire valoir. Et puis, vous savez, les hommes, on est un petit peu des coqs. Hein, mais... Bon, pour les femmes, c'est autre chose, il y a autre chose, mais je ne peux pas que parler de mon côté après. J'ai essayé de rentrer dans l'esprit d'une femme, j'y arrive pas. Après 20 ans, je vous dirais, vous avez plus d'assurance, oui, c'est... Ouais, non. Non, non, non. Parce que vous savez pourquoi ? On peut se penser. Le problème, c'est le problème de la routine. Quand on est dans une église, quand on est dans un couple, on a l'impression que parce qu'on fait les mêmes choses tous les jours, tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'avec Lana, on aime accompagner les couples, on aime beaucoup ça. Parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, on découvre, au bout de 20 ans, on découvre encore des trucs. Et donc, et les jeunes qui se disent, est-ce que je la connais assez ? On va se marier, mais est-ce que je devrais attendre un peu plus ? Dans 20 ans, mon coco, tu vas te réveiller à côté de quelqu'un, tu la connaîtras pas plus. Parce qu'elle change, et tu changes. La vie vous fait changer. Donc si vous attendez de se dire, est-ce qu'on se connaît assez? Non. Aime-toi. Aime-la. Rentrez dans cet amour de suite. Un amour qui donne sans chercher à recevoir. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais si tu penses devoir connaître quelqu'un assez avant de te dire, on va se lancer, ça ne marchera jamais. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas le vide d'amour que tu as dans le cœur, tu ne sais pas combien tu vas avoir besoin d'amour dans le futur pour pouvoir avancer. Et cet amour que tu cherches tant à travers l'autre, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Donc cet amour dont on parle ici, il est miraculeux. Si tu attends de le trouver dans une personne sur terre, eh ben, je sais pas, attends que Jésus revienne, mais tu risques que tu as. Il est déjà venu, il te parle aujourd'hui à travers la parole, à travers l'Esprit Saint, à travers peut-être tes frères et sœurs, il te rappelle combien il t'aime. Mais si tu fais la sourde oreille à la parole et à l'Esprit Saint et aux frères et sœurs, quand ils te disent combien ils t'aiment, ben, tu vas avancer avec pas grand-chose. Si tu attends de devoir mériter tout cet amour, tu vas souffrir, beaucoup souffrir. Parce qu'on ne te donnera jamais assez. Et ce vide que tu as à l'intérieur, il a une forme de Dieu. Et personne d'autre que de Dieu, que Dieu peut le remplir. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Et là, on se dit, mais quand même, ça va loin. Parce que là, la personne est en train de dire qu'elle sacrifie tous ses biens. Elle vend tout ce qu'elle a, elle le donne aux pauvres, j'imagine, jusqu'à sa vie. C'est-à-dire qu'elle est prête à mettre sa tête sur le billard, sur le bio, pardon, pour aider les autres. Part en mission, peut-être, dans un endroit où on n'aime pas les chrétiens, au risque de se faire tuer. Regardez le passage qui est intéressant. Au point de pouvoir m'en vanter. Ah d'accord. Ben, si j'ai pas l'amour, ça me sert à rien. Tu fais ça pourquoi, en fait? Pourquoi tu fais autant d'efforts? Pourquoi tu sacrifies tout jusqu'à ta vie pour aider les autres, au point de pouvoir t'en vanter? Quelle est la motivation? Quelle est ta motivation à faire ça? Est-ce que quand tu rentres à la maison après avoir tout fait ça pour l'église, tu dis « Mais tu te rends compte de ce que j'ai fait? J'ai besoin d'un break, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Si tu en es là, des fois, dans l'intimité de ta chambre, eh ben, c'est que tu fais ça sans amour. Tu fais ça parce que tu dis « Il faut le faire. » Mais vous savez, c'est comme une citerne qui se remplit constamment, mais qui se vide constamment. Elle ne retient pas l'eau. Et oui, tu peux faire quelque chose au point de pouvoir t'en vanter. Mais si justement, à un moment, tu as besoin de t'en vanter pour pouvoir te dire « ça va », c'est que ça ne va pas. Vous savez, c'est le Seigneur qui a dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Hein. Quand une main donne, il ne faut pas que l'autre le sache. C'est dire. Pourtant, elles se regardent hein, tout le temps. Elles savent ce qu'elles font l'une l'autre. Mais pour qu'une main ne sache pas ce que fait l'autre, c'est de dire qu'à l'intérieur de soi, il faut que ce soit très très clair. Quand tu donnes, c'est que tu donnes au Seigneur. Et tu donnes avec joie. Il nous donne même, Paul nous donne même l'exemple, quand on travaille pour un employeur, c'est de travailler comme pour le Seigneur. C'est pour ça que les chrétiens sont exemplaires. Je ne dis pas se doivent d'être exemplaires. C'est-à-dire un chrétien, quelqu'un qui vit la vie de Christ dans son entourage, au travail, est exemplaire. J'ai des exemples dans cette église d'ailleurs, d'exemplarité au travail. Et c'est bluffant. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui donne comme ça, et qui ne s'énerve pas, qui reste calme, qui encaisse même quand on l'engueule, parce qu'on n'est pas content des fois. Ce n'est pas sa faute, mais on n'est pas content, donc on l'engueule. Après tout, c'est un employé ou c'est un fournisseur ou c'est... Eh bien, la personne reste pareille à elle-même. Elle continue. Pourquoi? Parce que pendant que nous, on lui parle, elle se tient devant le Seigneur. Elle est heureuse parce qu'elle reçoit. À quel moment est-ce que tu sers au quotidien sans te tenir devant le Seigneur? Moi, à chaque fois que je le fais, je me plante. Je suis fatigué, je suis de mauvais poil. Faut pas me parler des fois parce que... Mais à chaque fois que je me tiens devant le Seigneur et que je fais ce que je fais au quotidien, je reflète, je prends de ce qu'il a à me donner, je donne. Évidemment, je garde pour moi parce qu'il est tellement abondant qu'alors qu'il me remplit, il cherche à ce que je déborde. Tout ce qui devrait sortir de nous comme amour, ça devrait être un débordement. Pas juste une imitation. Vous voyez ? Parce que imiter, c'est bien. Après tout, le Seigneur dit « Faites ce que je fais, on fait ce qu'on fait, on limite. » C'est bien. Après tout, c'est ce que le Seigneur a fait avec ses disciples pendant 3 ans. Il est « Suivez-moi les gars, on va faire des choses ensemble. Regardez-moi, puis vous faites pareil. » Ce disciple-là. Prenez exemple. Suivez, vous allez voir, ça va bien se passer. Et c'est ce que le Seigneur a fait pendant 3 ans, il leur a montré. Ils ont regardé le maître, ils ont imité le maître. Ils se sont rendus compte qu'en imitant le maître, ben, ça marchait. Puis dès que le maître n'était pas là, c'était difficile. Et vous voyez Jésus qui se retrousse les manches en disant « Mais je ne peux pas vous laisser tout seul !» En Marc 9, rappelez Marc 9, « Combien de temps je vais devoir vous accompagner là, les gars? Vous ne pouvez pas chasser ce démon de ce jeune enfant ?» Je vous l'ai dit, hein, y a des démons qui partent qu'avec le jeûne et la prière, donc allez. Et le Seigneur prie. Et ça arrive, les apôtres sont là, waouh. Les disciples sont... jusqu'au jour où le Saint-Esprit descend. La présence même de Dieu dans les cœurs. Cet amour qui vient directement du trône. Et là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'hésitation. Pierre est le premier qui se retrousse les manches. Il va dans la rue et il se met à prêcher, à annoncer le pardon des péchés, la résurrection, la réconciliation avec le Père, rempli au point de déborder. Je crois que ce matin-là, ce lundi matin, c'était ça en fait. C'était simplement un débordement. Parce qu'il n'y avait plus de place pour moi, il n'y avait plus. On s'en fout après, vous voyez. Le Seigneur est tout en nous. Mais c'est tellement rare ça, les amis. C'est trop rare dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église. C'est pour ça que le Seigneur, enfin Jésus nous dit à travers la parole, priez sans cesse. Paul nous le dit, priez sans cesse, être devant le Seigneur constamment, parce qu'on a le privilège, alors on va y venir, ça va être la clôture de ce message, mais regardons la définition de l'amour ici. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas à se faire valoir. Rappelez-vous, hein, les étagères, hein, le clou. Hein. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Si tu fais les choses par amour, vous comprenez, c'est pas par mérite. Vous voyez, quelqu'un qui va faire quelque chose gratuitement, il va vous aimer gratuitement. Gratuitement, vous lui avez rien demandé, vous l'avez jamais vu, et il vous aime, et il vous laisse. Il vous a aimé, il vous a donné, il vous a partagé, il vous a encouragé, puis vous ne le voyez plus, vous dites « mais c'est un ange cette personne !» Une autre anecdote, pour faire rire. Une autre anecdote. Bon, je dis « ça m'arrive rarement », donc c'est juste peu de choses qui me sont arrivées dans la vie chrétienne, mais parlons de cette confiance et de ce débordement. Vous allez passer dans la vie de personnes comme des anges. C'est obligatoire quand le Seigneur est en vous. Je donne un exemple. On était avec Glenda dans une situation très très difficile en 2015 et on traversait des moments particulièrement douloureux. C'était personnel, c'était financier, c'était plein de choses. Et dans cette série de choses qui nous arrivent, il faut savoir qu'on devait rendre notre voiture, une Renault, au fabricant, parce que c'était un leasing, et je savais que il y a plein de choses qui allaient pas passer. Donc on a rentré la voiture et puis il nous dit non, il y a ça et ça à faire, etc. Sinon on la reprend pas, sinon ça va coûter 3 000 euros, enfin un truc inimaginable. On se dit oh là là, dans quoi on est tombé. Et donc on nettoie la voiture, on fait tout en sorte que ça aille bien, etc. Et là on prend la voiture, je suis content, je suis confiant, je me dis ça y est, on y va, on va la rendre. Et on conduit vers Renomante. Et on y va. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie, par contre. Vraiment la seule fois. OK ? Je vais pour rendre la voiture. On est à... Je ne suis même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes de route. du garage. Et alors que je roule vers le garage, à une vitesse totalement normale, un caillou se détache du sol sous les roues de la voiture qui est devant moi et vient percuter... Ah oui, vous savez, connaissez la suite. Vous étiez là. Il vient percuter le pare-brise et le brise. Le pare-brise qui se brise, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Il se brise là. Et là, je rigole. Je dis, mais c'est incroyable. Le jour où tu dois la rendre, cette voiture. Tu comprenais ? Ok ? Le jour où tu dois la rendre, le pare-brise, voilà. C'est fait. Maintenant, tu conduis, tu vas à Renault, tu dis bonjour, voilà la voiture. Alors, ça vous plaît ? Donc, j'étais hors de moi. Et là, dans la voiture, je me dis, mais c'est pas possible, Lena, il y a un truc. Le Seigneur nous prépare quelque chose. Obligatoirement, il y a quelque chose. Si on va là-bas, il y a une raison. On va pas là-bas pour rien, c'est sûr. C'est certain. Alors, il y a un choix hein, d'interpréter les temps et les circonstances. Un choix, il y a avec le pare-brise et puis il y a avec la foi. Vous comprenez ? Avec la brisure sur laquelle on se concentre et qui nous énerve, ou en se disant, je fais confiance au Seigneur aujourd'hui, il se passe un truc. Sachez-le, il se passe un truc tous les jours. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et donc j'arrive dans cet endroit, Et là, je me frotte les mains. Je me dis, Seigneur, on va rigoler. Il se passe quelque chose. Ouvre-moi les yeux. OK ? Et là, il y a une jeune fille. Une jeune fille qui travaille au secrétariat. J'apprends qu'elle s'appelle Sarah. Et là, je ressens de l'amour. Je dis, Sarah, ça va ? Comment ça se passe et tout ? Ça va, oui, d'accord. Et on doit rendre cette voiture, oui, je vois. Et là, c'est ce qui me prend, hein, le Seigneur qui me met ça à cœur. Il dit, est-ce que je peux prier pour vous ? Je me suis dit, elle va me prendre pour un fou, elle va refuser. Elle me regarde, elle me dit, mais oui. Alors déjà, je me dis, waouh. Elle me dit, ça, en fait, en ce moment, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je suis là dans ce stage, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai mes études en plus que je dois terminer, c'est compliqué. Je dis, écoute, Sarah, on va prier. Et je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai prié pour elle. Mais j'étais dedans. Hein. On était bien. Je me suis dit, ben, si j'étais venu juste pour ça, c'est super. J'étais content. Je ne vous raconte pas comment la voiture, ça s'est réglé. Je reviendrai. S'il y a un truc, mais c'est énorme, vous n'avez aucune idée. Et sur ce, ben, je ne la revois plus. Et ça, c'était en 2015. Il y a 4 mois de ça, 4 mois de ça, je suis aux 100 ans de l'anniversaire de la FEB, qui fête ses 100 ans. C'est génial, il y avait le groupe Héritage qui était là. C'est super, c'est une bonne ambiance, etc. Puis je sens une tape sur mon épaule, je me retourne et je vois une jeune fille, une jeune black, qui me dit « Vous me reconnaissez ?» Je lui dis « Elle me dit quelque chose ?» Je dis « Excusez-moi, je ne vois pas. »« C'est Sarah !»« Sarah ? Oui, vous vous rappelez, renommante ?»« Renommante ? Oui. »« Ah ouais ? Ah ouais ?» Elle me dit « Ben écoutez, je pensais que vous étiez un ange. » Parce que vous savez, ce jour-là, c'était très difficile. Et quand vous avez prié pour moi, mais en fait, il y a plein de choses après. Je suis rentrée chez moi, j'étais heureuse et tout. Et vous savez, depuis 2 semaines après, j'ai trouvé un travail au sel. Et maintenant, je sers au sel à 100% du temps. Je les sers, je suis salarié chez le sel. Je sers le Seigneur, tout le temps, à 100%. Si je m'attendais. Et là, on savait pas du tout. C'est totalement surpris. Il y a des gens comme ça, vous allez toucher, les bénir. J'ai eu la chance de la croiser. Parce que après, vous pouvez revenir en rétrospective et dire, est-ce que vraiment c'était vrai tout ça ? Est-ce que c'était pas un produit de mon imagination ? Est-ce que c'était pas juste que j'étais enjoué ce jour-là, ou je sais pas, j'ai eu reniflé une fleur, et puis une fleur bizarre, hein, tu sais ? Et j'étais... Non, les amis. Il n'y a pas de reflet d'amour du Seigneur qui ne porte pas, qui ne va pas à son but. Vous savez comment on traduit péché en grec ? Amartia, vous savez ce que ça veut dire amartia en grec ? Ça veut dire rater sa cible. Le Seigneur ne rate jamais sa cible. Jamais. Donc si vous baignez dans cet amour-là, si vous lui faites confiance, même dans les moments les plus difficiles, mais vous ne pouvez pas rater votre cible. L'amour, même le peu d'amour que vous avez à donner, il va le multiplier. Regardez ce qu'il a fait avec des poissons et des pains. Alors imaginez avec de l'amour. Ah ! L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne fait pas quelque chose d'inconvenable. Il ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est l'histoire d'échange. Hein. Je te donne pour que tu me donnes. Si tu rentres dans une relation comme ça, arrête. Vraiment. Arrête. Si tu donnes pour qu'on te donne, arrête. Arrête, et si on te continue à te donner, c'est que ça va. Tu comprends ? Il ne faut pas que ce soit un contrat. L'amour, c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Combien de fois je vais maigrir contre les autres ? Combien de fois tu vas t'aigrir contre les autres ? Il ne trame pas le mal. J'aime bien, il y a une autre traduction, il ne trame pas le mal, c'est qu'il ne tient pas compte du mal. J'aime bien ça. Et certains ont reçu une grâce particulière que quand quelqu'un vient vous mordre, eh bien, vous ne répondez pas. Vous le laissez vous mordre, et puis quand il a fini, ça va. Ok, on va parler, on va discuter. comment tu vas. Vous comprenez? Tu ne vas pas réagir dans la chair à ce qu'on va te dire, ce qu'on va te faire. Tu tiens devant le Seigneur, donc toi, tu as ce qu'il faut. Mais est-ce que tu te tiens devant le Seigneur? En fait, la question, elle est là. Est-ce que je passe assez de temps à recevoir cet amour qui vient du Père pour pouvoir encaisser tout ce que la vie va me jeter dessus, tout ce que les autres vont me jeter dessus? Et alors qu'ils viennent me mordre, alors qu'ils viennent m'agresser, alors que tout ça, ça vient, même particulièrement, même avec des chrétiens, il faut s'y attendre, évidemment. C'est là que ça fait le plus mal. C'est ceux qui sont le plus proches qui nous font le plus mal. Et particulièrement quand ça vient d'un chrétien, si vous reflétez l'amour du Seigneur à ce moment-là, ça va transformer l'autre. Ça le transforme obligatoirement. Ça reflète. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Alors, je ne sais pas si on a bien lu. Oui, mais là, non. Attends, je relis. En toute occasion. Sauf quand... Non, il n'y a pas de sauf quand. C'est en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère. C'est là, les amis, que je vous dis que c'est miraculeux. C'est pas humain. Comment je peux pardonner en toute occasion? Bon, j'ai pas assez de temps pour vous donner d'autres témoignages, je pense, parce que ça... Mais il y a des choses qui semblent totalement impardonnables. Une mère qui perd son fils parce qu'il s'est fait tuer par un autre garçon. Et cette mère décide d'adopter cet autre garçon parce qu'il n'a pas de famille. Si ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est un témoignage de la chorale Brooklyn Tabernacle Choir à New York. C'est une chorale qui témoigne, qui chante et qui témoigne en même temps. Un des témoignages dans cette chorale, c'est cette femme. Son enfant s'est fait tuer par un de ses amis et elle a décidé, lors du jugement où l'enfant devait partir en maison de correction ou trouver une maison d'accueil, elle s'est désignée pour être la maison d'accueil. Donc elle élève l'enfant qui a tué son fils. Je relis, en toute occasion, il pardonne. Qu'est-ce qu'on vous a fait à vous? Est-ce qu'on vous a fait du mal? À quel point est-ce qu'on vous a fait du mal? Parce que là, si on se met à comparer avec cette femme, on est tous penauds. Ah, mais tu comprends, il m'a dit ça. Ouais. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Oh là là, il persévère face à quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un qui te traite mal tous les jours, quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Il persévère. Alors, ne me prenez pas, hein, je ne suis pas en train de vous dire si vous êtes dans une relation toxique où la personne cherche votre mort, vous devez rester. Et je suis sérieux, parce qu'il y a des relations toxiques où, dans un couple, la personne va se mettre à s'en prendre à l'autre, mais physiquement même. Et oui, mais moi, je suis là pour servir le Seigneur, donc oui, je sais qu'il me bat, mais vous savez, il faut se soumettre à son mari. Oui, il ne faut pas être non plus totalement débile, hein. S'il te plaît, excusez-moi, j'ai des termes crus. Mais il y a des choses dans l'Église, on se dit, oui, mais vous comprenez, dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas se séparer, il y a l'amour, etc. Mais attends, il va se faire tuer. Non-assistance à personne en danger, tu comprends? Quand je suis parti jeune pasteur, j'en ai fait des choses où j'ai dit, oui, mais tu comprends, il faut rester, machin. Et puis la vie t'apprend, elle te montre qu'il y a du sens commun, ça s'appelle du bon sens. La parole appelle ça la sagesse. Et qu'il y a des situations où il faut savoir faire la part des choses. Et qu'il y a des personnes qui sont tellement malades qu'elles sont dangereuses. Il faut mieux qu'elles soient traitées. On peut prier, hein, contre les démons, mais quand la personne ne veut pas se débarrasser de démons aussi, c'est aussi difficile. Ou quand c'est trop difficile, il faut peut-être des médicaments. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous dis ça parce que pendant un moment, j'étais contre les médicaments. Il fallait prier absolument, sans médicaments. Et puis, je suis revenu, hein, dessus. On apprend. On apprend à être humble, à se dire, mais le Seigneur a pourvu, vous savez, plein de manières différentes pour traverser les épreuves. Donc oui, il persévère, mais à une manière sage de persévérer. Il ne faut pas se détruire. Je connais une femme qui a été franchement abusée par son mari pendant 13 ans. 13 ans, elle a prié. Et au bout de 13 ans, cet homme est un des prophètes les plus admirables que je connaisse, c'est un de mes meilleurs amis. Il jurait contre Dieu, Il insultait le pasteur, il insultait ses serviteurs, il insultait le Seigneur. Et aujourd'hui, il risque sa vie en partant au Pakistan pour aller évangéliser et guérir des malades et ouvrir les yeux et annoncer l'évangile après 13 ans. Donc tout est possible, les amis. Tout est possible, vous comprenez. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour n'aura pas de fin. Alors je vais conclure. Dans cette relation, l'amour n'est pas une monnaie d'échange. L'amour est un moteur. Je sais que vous êtes allé faire la queue peut-être pour aller trouver de l'essence il n'y a pas longtemps. Et c'était pas facile d'en avoir. Mais dans cet amour qui est un moteur, on a une distribution qui est abondante et qui ne coûte que le temps qu'on passe à l'écouter. La parole, la présence du Seigneur imméritée. Et c'est là, elle est là ma conclusion. J'ai remarqué qu'on souvent démarre le culte avec beaucoup de nonchalance. Dans toutes les églises, on fait ça. C'est comme si on démarre le culte avec de la louange pour attirer les gens et leur demander de se concentrer et de venir, alors que ça devrait être totalement le contraire. Vous comprenez que le prix que le Seigneur a payé pour que l'on puisse rentrer dans sa présence, c'est justement la vie de son Fils. C'est-à-dire que cette présence dans laquelle on a accès chaque jour à chaque heure, on la vit peut-être comme un couple qui a vécu peut-être, je ne sais pas, 40 ans et qui est tombé dans la routine. Oui, mais c'est normal. Il y a une main dans les poches, c'est normal, on va au culte, c'est normal. Il y a les frères et sœurs, le Seigneur est là. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, le Seigneur nous a dit quand on fait la Sainte-Cène, alors on ne le fait pas, hein, aucune église ne le fait, je pense. Si, faites cela à chaque fois que vous vous assemblez, quand vous partagez les repas, vous allez rompre le pain, ça représente mon corps qui est brisé pour vous, hein, par une meurtrissure, vous êtes guéri, Esaïe le dit, pour être guéri, et ça c'est mon sang qui est versé, le sang qui efface vos péchés, le sang qui vous réconcilie avec le Père. À chaque fois que vous vous verrez et que vous partagerez des repas, vous vous rappellerez, faites cela en mémoire de moi. Donc à chaque fois qu'on s'assemble et qu'on partage quelque chose, le Seigneur nous dit, remettez ça au centre de votre relation. La croix est au centre, le pardon est au centre. Le sang qui a été versé, le sang pur de Jésus, qui était la prunelle des yeux de Dieu, qui était ce que Dieu avait de plus précieux, son enfant, son béni, celui qui fait toute sa joie, lui Jésus, qui nous aime, à qui on a craché au visage, on lui a arraché la barbe, on l'a giflé, on l'a craché dessus. Il dit, mais je te pardonne, je ne te condamne pas, tu ne sais pas ce que tu fais. Ce Jésus-là, qui dit, viens vers moi si tu es fatigué, chargé, je te donne du repos, viens, viens, regarde dans mes mains, regarde dans mon côté. J'ai été brisé, j'ai été pour toi, pour que tu puisses être libre. Comprenez que cet amour-là, le signe de bonne santé de votre cœur, c'est que vous aimiez Dieu. Si vous avez un jour où vous aimez moins Dieu, dites-vous, je suis en mauvaise santé spirituelle. Si vous avez un jour où vous n'aimez pas votre frère comme vous-même, vous dites, il y a un problème sur mon thermomètre personnel, je n'aime pas mon frère comme moi-même, il y a un problème, je dois revenir vers la croix. Comprenez que c'est au centre. Et on arrive avec nonchalance dans la présence du Seigneur en se disant, mais c'est normal, il est là. Non, c'est pas normal. C'est pas une norme. C'est l'amour. Et si tu passes à côté de ça, tu passes à côté du corps de Christ. Tu passes à côté du corps de Christ et que tu prends la Sainte-Cène, tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Je ne suis pas plus capable que vous. Je parle comme un homme qui va mourir en face d'hommes et de femmes qui vont mourir. Le temps est court. On a peu de temps pour aimer. On a peu de temps pour recevoir, comprendre, vivre cet amour. On en a peu. Et chaque jour nous écarte. L'amour est le moteur, sinon c'est malsain. L'amour n'est pas une monnaie d'échange. L'amour, on va le puiser à la source. L'amour, il est relationnel. C'est une relation au-dessus de toutes les autres qui montre l'exemple. C'est la relation du Fils et du Père, et du Fils avec nous. Et c'est ça ce qui va se miroiter, qui va se refléter. La relation, écoutez, je termine là-dessus. Elle est basée sur le sacrifice de Christ. Et la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même, s'il vous plaît. Si vous trouvez encore des défauts, des choses, on dira, mais je ne m'aime pas, etc. Ben, commencez par là, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Si vous trouvez que vous n'êtes pas aimable, est-ce que vous ne connaissez pas encore l'amour du Seigneur? Est-ce que lui, il vous aime? Oh, il vous aime. Oh, il vous aime. S'il a levé un gars comme moi un lundi matin pour aller parler à quelqu'un que le monde condamnerait, enfin le monde, pas le monde d'aujourd'hui, mais que beaucoup de chrétiens condamneraient, il est homosexuel, tu comprends, regarde, il couche avec tout le monde le machin. Cet homme-là, il est aimé de Dieu, profondément aimé de Dieu. Il va le chercher là où il est pour lui dire, lui crier combien il aime. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous pensez être, et surtout si vous pensez être au fond d'un puits, eh bien tant mieux, parce que là le Seigneur vient vous montrer combien il vous aime. Et il n'attend rien en retour. Comprenez ? Pas parce que vous allez plus lire votre Bible, plus prier, plus aider la grand-mère à traverser la rue qu'il va vous aimer. Non ! Il vous aime déjà ! Il vous aime déjà, n'essayez pas ! Arrêtez d'essayer ! Arrêtez d'essayer, il vous aime déjà ! Prenez juste ça et levez-vous avec le matin, ça change tout. Le meilleur des médicaments. Il vous aime déjà, rien à faire. Après, à partir de cet amour-là, c'est là que ça commence. C'est là le début. Le début de la journée, elle démarre dans son amour à lui, pas dans notre amour à nous pour lui, sinon on serait pauvres. Elle démarre dans son amour. Si tu n'en as pas assez, reste un peu plus longtemps au lit, prie, ou mets-toi à genoux, fais comme tu veux. Rajoute un petit peu de beurre sur ta tartine en disant « c'est le Seigneur qui la rajoute ». Fais quelque chose, mais cherche cet amour-là jusqu'à ce que tu le sentes. Que ce ne soit pas que là, cher chrétien qui connaît sa Bible, qui connaît le grec ou l'hébreu, je ne sais pas quoi. Ça, on connaît avec André, on peut parler du grec. Ça ne sert à rien à la fin si on n'a pas l'amour. Ça ne sert à rien. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ton sacrifice, Seigneur, la croix, Seigneur, ton sang qui a coulé, Seigneur. Oh, ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous là où tu es, Seigneur. Oh, Jésus, on n'a pas grand-chose ce matin à t'apporter. On a des mains vides, regarde. On n'a même pas de pain et de poisson, regarde. On a les mains vides, elles sont tournées vers toi parce que tu es celui qui donne. Tu es celui qui remplit. Permets-nous simplement de ne pas être percés. Permets-nous simplement de déborder de toi, Seigneur. On te demande ce que l'on te demande. Tu nous dis, demandez, vous recevrez, tu parlais de ton Saint-Esprit. Alors nous te demandons, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès.